Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous. Téhéran avertit plusieurs pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Turquie, qu'il attaquera les bases militaires américaines sur leur sol en cas d'intervention militaire des États-Unis contre l'Iran. C'est un haut responsable iranien qui l'a annoncé aujourd'hui sur l'agence de presse Reuters. Les États-Unis ont donc évacué une partie de leurs bases militaires, notamment à Al-Udeid, qui se trouve au Qatar, toujours selon l'agence Reuters. L'avion officiel israélien, les ailes de Tzion, ont quitté l'espace aérien israélien pendant 3 heures. Personne ne sait pourquoi. Selon certains rapports, ce vol intervient dans un contexte de crainte liée à de nouveaux affrontements avec l'Iran. L'annonce imminente de la transition vers la phase 2 suscite une vive opposition du quartier général des familles d'otages en Israël. La phase 2, c'est la nouvelle phase de reconstruction de la bande de Gaza sous la direction des États-Unis. Et normalement, la promesse de Benjamin Netanyahou était qu'elle ne démurerait pas tant que le dernier otage ne serait pas rentré en Israël. Et il y a, vous le savez, toujours un défunt qui est enterré dans la bande de Gaza. Tzahal a annoncé avoir neutralisé 6 terroristes armés lors d'un affrontement hier soir dans l'est de Rafah. Et donc les responsables militaires disent qu'il n'y a pas du tout de cessez-le-feu puisque les affrontements sont aujourd'hui quotidiens dans la bande de Gaza. La question du forum des auditeurs de ce soir à 18h30. Est-ce que vous craignez une forme de... est-ce que vous craignez en fait un dérapage et une guerre entre Israël et l'Iran? Vous nous appelez au 01 43 36 04 06. 01 43 36 04 06. Le forum, c'est à 18h30. C'est tout de suite après le journal. Et on part pour Jérusalem. On le retrouve, notre correspondant permanent, Dror Evensapir. Bonsoir, Dror.
Bonsoir.
Alors, je l'ai dit à l'instant dans les titres, tout le monde a les yeux tournés vers la situation en Iran, évidemment, avec une possibilité de dérapage et donc un déclenchement d'une guerre entre Israël et l'Iran, même si apparemment les deux parties n'en veulent pas. Mais c'est la grande question de la journée. D'ailleurs, ce sera la question de notre forum ce soir à 18h30 au 01 43 36 04 06. Mais il se trouve que la situation à Gaza n'est pas réglée et que même si Trump est très engagé dans la crise iranienne, il continue apparemment d'avancer aussi sur le dossier de Gaza. Et donc c'est sur ça que on aimerait obtenir des précisions ce soir, Dror, de votre part. On parle de la mise en place de la phase 2. Or, phase 2 signifie, enfin tel que ça avait été écrit, signifie qu'il y a un cessez-le-feu. Apparemment, il n'y a pas du tout de cessez-le-feu, ni à Gaza, ni au Liban. Et parle d'une reconstruction de la bande de Gaza. Alors, quelles sont les informations dont vous disposez à Jérusalem ce soir, Dror?
Oui, pour les États-Unis,
Dror, est-ce que vous m'entendez?
Oui. Au cours de la nuit, heure israélienne ou heure française, c'est ce qui a annoncé sur le réseau social X l'un de ses émissaires dans la région, à savoir Steve Witkoff, en affirmant que cette phase 2 allait, ou en rappelant peut-être, parce que c'était déjà précis, le plan 20 points qui est...
Dror, on a du mal à vous entendre pour une raison liée à la technique, tout simplement. Est-ce que vous m'entendez correctement? Dror, est-ce que vous m'entendez? On va vous rappeler dans une petite minute. Pendant ce temps-là, donc, je reviens sur la situation à Téhéran. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est la question de notre forum des auditeurs de ce soir. Craignez-vous une guerre Iran-Israël? Téhéran affirme qu'il bombardera les pays qui sont limitrophes de son territoire et qui accueillent des bases militaires américaines en cas d'attaque de Donald Trump. Sachant par ailleurs que c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas cité d'attaque sur le territoire israélien. Or, vous vous souvenez que c'était le scénario de Saddam Hussein, une attaque américaine signifie des représailles sur Israël. Et puis, je vous le disais en titre également, l'avion officiel, les ailes de Sion, qui est le Air Force One en quelque sorte, qui est l'avion militaire dans lequel se déplace Benjamin Netanyahou, a quitté l'espace aérien israélien depuis la base aérienne de Nevatim, a survolé la Méditerranée. Apparemment, il s'agit tout simplement d'un exercice pour voir si l'avion est prêt en cas d'une déflagration, d'une catastrophe, et surtout donc d'un dérapage avec les Iraniens. Notre correspondant permanent, Dror Evensapir, est de retour avec nous donc à Jérusalem. Dror, est-ce que vous m'entendez correctement ?
Très bien, oui.
Très bien. Alors, vous étiez en train de me dire, à l'instant, que le conseiller de Donald Trump affirme qu'il va pouvoir annoncer dans la nuit le début de la phase 2. Et si j'ai bien compris ce que vous disiez, la phase 2, c'est une forme de reconstruction, de mise en place d'une force internationale à Gaza. Est-ce que c'est bien ça ?
Oui, en fait, la phase 2, et Steve Witkoff, l'émissaire de Trump, l'a précisé dans son tweet, la phase 2 correspond à trois dimensions, trois éléments essentiels. La démilitarisation de la bande de Gaza, donc le désarmement du Hamas, c'est bien évidemment l'aspect le plus délicat et l'aspect sur lequel les Israéliens insistent le plus. C'est également la reconstruction de la bande de Gaza et c'est également l'instauration d'un pouvoir civil, d'un gouvernement de technocrates, de technocrates palestiniens qui devraient se mettre en place et qui devraient gérer la situation dans la bande de Gaza au quotidien, au jour le jour, et gérer cette fameuse reconstruction. Ce gouvernement ne sera pas chargé du désarmement du Hamas et bien évidemment l'angle mort de cette deuxième phase. La question que tout le monde se pose, c'est qui pourra désarmer le Hamas ? Qui aura la capacité de le faire ? C'est une question qui reste sans réponse à l'heure où nous parlons. Autre question sans réponse, quid du dernier corps d'otage qui est encore détenu dans la bande de Gaza, à savoir le corps du policier Ran Gvili, qui avait été tué au combat le 7 octobre 2023 pour Israël. Il est hors de question de pouvoir passer à la fameuse phase 2, ce qui implique également, il faut le rappeler, un redéploiement partiel des troupes israéliennes des zones dans lesquelles elles sont encore déployées. Donc pour Israël, pas question de passer à la phase 2 tant que le corps de Ran Gvili n'est pas restitué et rendu à ses proches. Or, ce n'est pas le cas. Dans son tweet, Steve Witkoff précise que le Hamas devra restituer le corps du dernier otage, faute de quoi, eh bien, il risque de faire face à des conséquences très, très lourdes. Ce n'est pas la première fois que les Américains menacent le Hamas et très souvent, ces menaces n'ont pas été mises à exécution, d'où l'inquiétude en Israël. Côté palestinien, la plupart des factions palestiniennes étaient réunies au Caire ces derniers jours et selon l'Égypte, elles se sont toutes mises d'accord pour soutenir l'établissement du gouvernement de technocrates palestiniens censés gérer la bande de Gaza au cours de cette fameuse phase 2. Et là aussi, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse concernant la composition de ce gouvernement de technocrates. On sait qu'Israël veut pouvoir exercer un droit de veto sur un certain nombre de personnalités qu'Israël considère comme étant proche du Hamas, en tout cas trop proche du Hamas pour pouvoir intégrer ce gouvernement de technocrates palestinien.
Dror Evensapir, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Tzahal a annoncé avoir neutralisé, je vous le disais en titre, une unité de 6 terroristes du Hamas qui ont attaqué dans l'ouest de Rafah. Et évidemment, l'armée fait remarquer qu'on parle de la mise en place de la phase 2, mais la phase 1 n'est pas terminée et les combats sont quotidiens entre groupes palestiniens et Tzahal dans la bande de Gaza. Par ailleurs, les familles, Dror vient de le dire à l'instant, ne sont pas contentes de cet accord qui, selon elles, ne respecte pas la promesse de Donald Trump de n'entrer dans une phase de reconstruction de Gaza que quand tous les otages seront rentrés, y compris les corps de ceux qui ont été assassinés. La situation à Téhéran à présent, avec une liste de 56 militaires qui a été présentée à Donald Trump, des cibles sont toutes situées dans la capitale iranienne. Cette liste recense des sites considérés comme le cœur du dispositif de répression des gardiens de la révolution, qui sont accusés de diriger la violence contre les manifestants. La liste aurait été transmise dès le début de la semaine à la Maison-Blanche, où elle est qualifiée de dossier à forte valeur stratégique. Donald Trump, qui s'est exprimé dans une vidéo et qui dit aux Iraniens directement « prenez les noms de ceux qui vous assassinent. Prenez les téléphones, les coordonnées, tout ce que vous avez. Nous leur ferons payer très cher. » Tous les patriotes iraniens, continuez de manifester. Prenez les noms des assassins et de ceux qui vous ont maltraité. Vous avez été beaucoup maltraité. Prenez les numéros.
But I hear much lower numbers and then I hear much higher numbers. But I say save their names.
Je dis gardez leur nom parce qu'ils vont payer un prix très cher. J'ai arrêté toute discussion avec les officiers iraniens jusqu'à ce que ce massacre s'arrête. Vous avez vu que j'ai mis des sanctions sur toute personne qui fait du commerce avec les Iraniens. Et je vous dis, make Iran great again. Rendez l'Iran grand encore. C'est un grand pays, l'Iran. C'est très fragile. Je vous le dis, qu'est-ce qui se serait passé si moi, je n'avais pas gagné ces élections ? Voilà, donc Donald Trump qui dit, que se serait-il passé si ce n'est pas moi qui avais gagné les élections face à Joe Biden ? Et puis, si l'on en croit NBC News, de hauts responsables israéliens ont transmis un message à l'administration Trump. Il est prématuré d'attaquer l'Iran, affirme-t-il. Il cite, y compris des responsables dans la région, des Arabes aussi, qui disent... qu'il faut attendre que le gouvernement, qu'il faut attendre que le régime, il n'y a pas de gouvernement vraiment qui va y dire quelque chose, disons le régime iranien soit davantage affaibli avant d'intervenir. Le témoignage sur la chaîne 12 de télévision israélienne d'un otage israélien dans les tunnels à Gaza et qui raconte comment un jour, Yarden Bibas vient le voir et lui dit « On a tué ma femme et mes enfants. » Il est arrivé, il était blanc, blanc comme cette chaise. Et il me raconte. On a tué mes deux enfants. Shirley, elle était ma sœur. C'était comme ma sœur. Moi et Sharon, on les connaissait. Un homme reçoit une chose pareille, une information comme ça, alors qu'il est à Gaza en prisonnier. Moi, dans la situation où je suis, je ne sais même pas comment même... avaler une chose pareille. J'ai commencé à pleurer, je l'ai pris dans mes bras. Tu sais pas quoi lui dire pour l'aider. La seule chose que je lui ai dit, c'est des menteurs. Les crois pas. Peut-être ils ont fait une erreur. Peut-être c'est pas eux. Et je crois que c'est ça qu'il a tenu, qu'il a permis de tenir. Et après, on arrive dans une grande salle, que là-bas, je vois tous les anciens du kibbutz qui ont été faits prisonniers. C'est des gens qui ont 80 ans. C'est des gens qui ne mangent pas. Tu sais comme ils étaient maigres. Mais on ne fait pas des choses comme ça. Ce n'est pas humain. Voilà, donc terrible témoignage de retour des tunnels de Gaza. Raphaël Huzan nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Raphaël.
Et bonsoir Bernard.
Raphaël, alors l'annonce de la candidature de Sarah Knafou fait son effet et pour l'instant elle fait plutôt exploser la droite qu'autre chose avec Rachida Dati qui craint un émiettement des voix à droite avec donc cette nouvelle candidate.
Et oui, hein, tout à fait Bernard, hein, la ministre de la Culture met en garde la candidature de Sarah Knafou à la mairie de Paris, fait planer le risque d'un émiettement des voix et des votes au premier tour pour la droite, synonyme de chèque en blanc donné à la gauche, a donc estimé Rachida Dati chez nos confrères de CNews.
Un émiettement des voix et des votes au premier tour, je l'ai dit, c'est un chèque en blanc que nous donnons à la gauche et à l'extrême gauche.
Dire quoi ? Que Sarah Knafou et Pierre-Yves Bournazel risquent de vous faire perdre ?
Moi, je dis tout émiettement au premier tour, l'alternance est compromise. Je le dis en responsabilité. Voilà. Et puis, quand ils font des propositions, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Les propositions, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pour ça que moi, je dis aux journalistes...
Le monopole de la crédibilité dans cette bataille parisienne.
Parce qu'on a une expérience. Aujourd'hui, on a une expérience, on a des propositions. Mais... Nous avons fait des contre-propositions. De Conseil de Paris en Conseil de Paris, que vous avez observé, nous avons fait des propositions qui ont été rejetées.
Et il est vrai que vos CI parlent.
Et donc, selon selon un récent sondage ELAB publié ce samedi, la liste d'union de la gauche menée par le socialiste Emmanuel Grégoire arriverait en tête du premier tour avec 33% des voix devant Rachida Dati, créditée de 26%. Sarah Knafou, quant à elle, est créditée de 9%.
Avec Sarah Knafow qui réaffirme qu'elle ne sera jamais un facteur de division à droite.
Oui, tout à fait. Interrogée sur la concurrence de sa liste avec celle de Rachida Dati pour les Républicains, Sarah Knafow répète et réaffirme qu'elle se présente pour faire gagner la droite.
Jamais je ne ferai perdre la droite. Donc on verra quels seront les scénarios au second tour. Moi, j'espère que je serai en position de dire, arrivée première, lors du premier tour, que je tends la main à tous les autres. Rappelez-vous que tout est possible. On a beaucoup parlé de Zoran Mamdani ces derniers jours. Il était à 3% l'an dernier. Il est aujourd'hui maire de New York. Faisons confiance à la liberté des Parisiens et croyons en la démocratie.
Alors justement, Zoran Mamdani, ce qui est frappant dans, dans ce début de campagne, Sarah Knafow, c'est la tonalité que vous essayez.
Oui, on reproche beaucoup à Sarah Knafow de calquer sa communication avec des lettres roses et jaunes sur le ton, le calque de Zoran Mamdani, candidat socialiste qui est devenu aujourd'hui maire de New York. En tout cas, dans le cas où la candidate Reconquête venait à accéder au second tour, la candidate n'a pas complètement fermé la porte à un ralliement à la liste de Rachida Dati. Si les Parisiens choisissent quelqu'un d'autre, je serai tout à fait constructive pour faire gagner les idées qui sont les miennes, a-t-elle assuré. En tout cas, dans le camp des LR, on exclut pour l'heure une telle hypothèse. La liste de Rachida Dati pour le premier tour sera la même que celle du second, a affirmé notamment le député Renaissance Sylvain Maillard, l'un de ses soutiens.
Merci Raphaël. On reparle à présent de la situation à Téhéran et nous sommes en ligne avec le journaliste Mustapha Tossa. Bonsoir Mustapha.
Bonsoir Bernard.
Alors, est-ce que vous êtes de quelle école ? Vous pensez que cette fois le régime iranien est allé trop loin, comme nous disait Georges Malbruno ? Est-ce que vous pensez qu'on l'a vu souvent rebondir ? Votre analyse, vous, de la situation à Téhéran, c'est laquelle ?
Non, moi je suis de l'école qui dit qu'on arrive à un tournant, on arrive à une fin de cycle et que ce régime iranien finira par tomber. Non pas que les manifestations sont différentes des autres ou que la répression est différente des autres, mais il y a un contexte régional et international qui fait peser énormément de pression sur ce régime iranien et qui finirait, à mon sens, par le faire tomber. Donc, le facteur qui est différent par rapport aux autres époques, c'est la détermination d'un homme qui s'appelle Donald Trump et qui voudrait profiter de cette séquence pour procéder à un changement de régime en Iran. Ça, c'est une volonté qui est manifeste. Alors, le grand mystère est que ça prendra combien de temps, combien de jours, combien de semaines, combien de mois, mais la dynamique de la chute du régime est enclenchée.
Mais pendant ce temps-là, les Iraniens se font massacrer, donc c'est pas... J'ai presque envie de dire, on n'a pas le temps.
Oui, toute révolution, tout changement a un prix, a une facture qu'il faut payer. Les Iraniens le payent et ça ne serait que, j'allais dire, que quelque chose de tout à fait normal parce que si le changement était venu de l'extérieur, les Iraniens eux-mêmes l'auraient refusé parce que ça aurait été une démocratie qui aurait été imposée par les bombardements extérieurs. Là, on voit que ce sont les Iraniens qui expriment leur ras-le-bol de ce régime, qui sortent au prix de leur vie, au prix de leur poitrine désarmée et qui crient au monde de ce changement. Donc, moi, je crois que oui, c'est vrai que c'est triste d'avoir autant de morts. Là, je viens de consulter les derniers chiffres qui ont été publiés par la presse après 3 500 morts. C'est vrai que la facture est lourde. Mais si c'était le prix à payer pour que les Iraniens puissent vivre dans un pays stable, démocratique, qui entretient d'excellentes relations avec son voisinage arabe-israélien, et pourquoi pas. Donc c'est dommage qu'il y ait autant de morts, mais peut-être que c'est le prix à payer pour qu'il y ait le changement rêvé depuis des décennies.
Vous dites Trump est déterminé, d'ailleurs c'est ce qu'on voit, vous avez raison, mais qu'est-ce qu'il peut faire à part attaquer les Iraniens ? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Il a déjà tout bloqué, il a interdit qu'on achète... Enfin, je veux dire, c'est quoi sa marge de manœuvre et qu'est-ce qu'il peut faire ?
Je ne sais pas. Maintenant, l'histoire de l'intervention étrangère sur l'Iran peut se faire sur beaucoup de niveaux. Il a bien osé l'extraordinaire aventure de kidnapper un chef d'État à Caracas sans que cela n'ait cassé le pays ou n'ait provoqué une guerre civile ni au Venezuela ni en Amérique latine. Et cette pression sur l'Iran, je ne sais pas comment elle va se faire. Est-ce que ça va se faire par une frappe à la tête du régime comme ça a été déjà tenté avant? Est-ce que ça va se faire par l'infiltration de forces spéciales sur le terrain iranien pour pouvoir affaiblir ce régime et éventuellement le faire tomber? Je ne sais pas. D'ailleurs, personne ne le sait. Donald Trump a promis une évolution majeure en termes d'aide américaine aux Iraniens, mais on ne sait pas. Mais toutes les hypothèses sont possibles et envisageables quand on s'appelle Donald Trump, parce qu'apparemment, il ne s'interdit aucune démarche pour accélérer la chute du régime iranien.
Et question qui suit généralement, est-ce que ça va dégénérer par une guerre avec les Israéliens? On se souvient de Saddam Hussein, évidemment, mais les Iraniens eux-mêmes ont dit « on vous prévient, vous nous attaquez, on tapera partout ».
C'est vrai que c'est ça la carte entre guillemets dissuasive qui est utilisée régulièrement par les le régime iranien. Il dit si jamais il n'a plus rien à perdre, ben il va brûler la région. Alors la question est de savoir, un, de quelle capacité militaire il dispose après la frappe dont il a été l'objet récemment israélienne et américaine. Est-ce qu'il réellement il garde une capacité de frapper? Et puis, est-ce qu'il y a une volonté à l'intérieur même de ce régime iranien d'ouvrir un front international? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'une des cartes que les Américains peuvent jouer actuellement, c'est de provoquer des dissensions au sein de l'architecture du pouvoir iranien et éventuellement essayer d'organiser une espèce de coup d'État en interne. Et pourquoi pas, ça ferait l'économie d'une réaction iranienne sur le plan régional. Mais vous avez raison, Bernard, ce paramètre-là d'une réaction sanguine du dernier carré des régimes iraniens peut paraître suicidaire et peut vouloir entraîner l'ensemble de la région dans une guerre ouverte, surtout s'ils attaquent des villes, ils attaquent des civils pour se venger de ce qu'ils sont en train de subir en ce moment.
Ma dernière question sur votre sentiment personnel en tant que journaliste. Quelle impression de voir comme ça le régime iranien qui effectivement apparemment est en train d'arriver à sa fin, massacré comme ça à tour de bras. Comment vous voyez ça? Ils y croient encore, ils se vengent, ils sont fous. 3500 personnes en 10 jours, ça fait beaucoup de monde. Hein.
Oui, c'est le désespoir. Il y a une équipe au pouvoir qui s'accroche absolument et qui pourrait faire passer par perte et fracas tout ce nombre de civils morts. Ça, c'est une dictature qui s'accroche à son pouvoir. Mais il y a Bernard, il y a une question à laquelle je voudrais répondre, mais même si vous ne me l'avez pas posée, je me la pose à moi-même. Les pays arabes, comment ils suivent cette guerre et comment ils attendent, quelle issue ils en attendent? Alors, pour moi, il y a deux personnes qui sont inquiets et angoissées par la chute du régime iranien dans le monde arabe. Il y a le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le président tunisien Kais Saied. Toutes les autres capitales n'attendent qu'une seule chose, c'est la chute du régime.
Et eux, pourquoi?
Et parce que depuis des décennies, l'Iran a été un danger majeur pour la stabilité de ces pays.
Oui, mais pourquoi l'Algérien il est au Maghreb, il est loin?
Ce régime algérien, le duo Algérie-Tunisie, ils ont fait le choix récemment d'établir un lien stratégique, une sorte d'intimité stratégique avec l'Iran. Et eux, si jamais, comme l'Algérie a perdu son allié vénézuélien Maduro, Nicolas Maduro, si elle perd son allié aussi iranien, ça serait un grand affaiblissement de sa taxe qui voulait incarner une forme de résistance à l'influence américaine. Donc il y a ces deux pays-là qui sont très inquiets. Il y a un homme qui aurait pu regretter la chute du régime iranien, c'est le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, mais heureusement, il n'est plus là pour le regretter.
Il n'est pas là pour nous dire ce qu'il en pense. Mustapha Tossa, merci pour ces quelques mots et bonsoir à vous.
Bonsoir.